Combien de temps ça dure?
Je sais pas, ça dépend de la longueur de tes questions, il y a 5 questions.
Tu veux dire de mes réponses?
Alors. De tes réponses, pardon.
D'accord.
On y va? Et c'est le cercle sur Equinox Radio, l'émission de référence de l'actu barcelonaise, comme tous les mercredis entre 21h. Tous les lundis déjà. Tout est faux. Mais je suis un peu grippé au fait, je t'ai pas dit, Agathe. Vous êtes dans le cercle sur Equinox Radio, comme tous les lundis entre 22h et 23h. C'est l'émission de référence de l'actu barcelonaise avec une invitée qui rentre dans les studios d'Equinox Radio. Son nom, c'est Agathe Fourneau. Bonsoir, Agathe.
Bonsoir Nico.
Bonsoir Agathe.
Voilà,
bonsoir.
Donc Agathe, on va te poser quelques questions parce que toi t'es écrivain, t'es journaliste. D'ailleurs, on va faire ta bio express tout de suite avec Leslie.
Agathe Fourneau est journaliste politique, donc durant de nombreuses années, elle a interviewé Valéry Giscard d'Estaing avant d'écrire ses mémoires. Donc, Agathe Fourneau a travaillé notamment pour les journaux Le Point et Le Figaro Magazine. Entre 2000 et 2009, Agathe a écrit beaucoup de livres sur l'enfance, la famille et le divorce. Aujourd'hui, Agathe est une Barcelonaise d'adoption et sort bientôt un nouveau livre.
Voilà, donc on va parler, c'est bon, c'est correct tout ça, Agathe?
Pas d'erreur.
Juste une petite précision, je ne suis pas journaliste politique, je suis journaliste, j'irais même plutôt généraliste, et ma spécialité ou ma spécialisation, ça a été les sujets de société et psy. Et en fait, je suis arrivée à Valéry Giscard d'Estaing, si on peut dire ça comme ça, par la société, puisque j'avais commencé à travailler sur Vulcania, à l'époque où il y avait pas mal d'attaques de la part du journal Libération sur son projet. Donc j'avais été mise sur le coup par le Figmag, et j'ai eu l'occasion d'aller voir sur place, de le rencontrer, de l'interviewer, et ça s'est passé comme ça. Après, c'est vrai que j'ai aussi fait de la politique parce que j'adore ça, et que la politique, c'est très très proche de la psy, ou en tout cas, il y a beaucoup de psy dans la politique.
Il y a beaucoup de psychopathes.
aussi, on peut dire ça comme ça, oui, on peut.
Bon, et comme l'a dit Leslie, toi, donc, tu as été journaliste au Point, au Figaro, tu viens de le dire, tu écris des livres, maintenant, tu es à Barcelone. Alors, pourquoi tu es à Barcelone? Est-ce que c'est pour trouver l'inspiration au soleil, à la mer, tout ça?
Ça peut aider en effet. Non, il se trouve que j'ai vécu à Barcelone il y a fort longtemps et que voyant mes enfants grandir en France, à Paris en particulier, et s'étioler un peu, je me suis dit à un moment donné, bon, compte tenu de mon parcours, compte tenu de mes envies, je peux peut-être tenter le coup, essayer Barcelone, maintenir un rythme de vie qui me permettra de faire des allers-retours, ce que je fais toutes les trois semaines, je suis quelques jours à Paris, et de fonctionner ici et de travailler beaucoup à partir d'ici, même si en effet je travaille pour la France, pour dire ça comme ça, puisque mon principal employeur, pour dire ça comme ça aussi, et les éditions Albin Michel, ayant quitté la presse écrite, je me suis retrouvée davantage dans l'édition aussi, dans la partie de derrière. Okay.
Donc Leslie en a fait mention aussi, tu as écrit beaucoup de livres sur tout ce qui est l'éducation, la famille, les enfants, le divorce, etc. etc. On a dit les dates entre 2000 et 2009, si on devait faire un pont aujourd'hui en 2015 sur ces thèmes, est-ce que tu dirais que les choses sont allées en s'améliorant ou plutôt en se dégradant au niveau psychologique, sur les familles, le divorce, la gestion de tous ces thèmes?
Pour ce qui est de la gestion de tous ces thèmes, il y a quand même un point positif que je tiens à souligner, c'est que le fait d'en parler davantage favorise quand même une évolution assez notoire des mentalités au sein des familles, au sein des couples, et même concernant en particulier l'évolution des enfants, il est frappant à quel point ils sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus sensibles à ces questions-là. Donc à la fois plus matures, plus mûres, quelque part aussi peut-être plus fragiles aussi du fait des ruptures de trajets parentaux, familiaux, qui de fait forcément obligent à se poser beaucoup beaucoup de questions et parfois à pallier les manques de ses parents.
On parle beaucoup des réseaux sociaux justement en ce moment avec les jeunes, les ados, etc. etc. T'en penses quoi toi? C'est positif, c'est négatif de se retrouver comme ça, tous réunis?
Là aussi, il y a deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a un volet qui est absolument formidable parce qu'on peut être avec ses amis, on peut être auprès des siens par cette espèce de don d'ubiquité. En revanche, ce que je trouve extrêmement... comment dire, je voudrais pas dire négatif, mais je trouve que ça interroge et pour le coup, c'est un sujet sur lequel on pourrait écrire pas mal de livres, puisque c'est un sujet de recherche actuelle, c'est de voir à quel point ça modifie le psychisme. C'est-à-dire que si l'on vit en temps réel et en temps dédoublé, c'est-à-dire que par exemple un adolescent qui est avec ses parents vit en même temps sur sa tablette ou sur son téléphone avec ses copains. Donc à quel moment, où se situe le réel pour lui? c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que du point de vue des psychiatres, bon, il y a pas mal de travaux qui commencent à être menés. Bon, ça, c'est un sujet à suivre.
Mais tu penses, toi, que les jeunes, les adolescents perdent un peu la notion du réel? On entend souvent dire qu'ils vivent dans le virtuel avec les jeux vidéo extrêmement violents, tout ça. Toi, tu penses qu'elle est vraie, cette thèse?
Je pense que ce qui est vrai, davantage, c'est un rapport au présent qui est modifié. Avant, les enfants avaient le sentiment que le temps passait très, très lentement. On avait le temps de s'ennuyer. Mmh. Et quand on leur disait « dans une semaine, vous allez faire ça, dans un mois, vous serez en vacances », c'était comme si on leur disait « le siècle prochain ». Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que les enfants ont le sentiment que leur propre temps leur échappe.
Ouais. Mmh. Ils sont complètement perdus chronologiquement.
Ils vivent en temps immédiat et ça se mélange. Par exemple aussi, un certain nombre de gamins vont rentrer chez eux passer le week-end. Ils ont quitté l'école le vendredi, tout se sera bien passé, enfin ou normal, oui, avec les relations. Et pendant le week-end, vont se créer des problématiques via leurs relations virtuelles qui font que, il y a un certain nombre de drames aussi qui vont se créer. Et par exemple, ça va se transformer en agression et en conflit lundi matin à l'école.
Alors, tu as travaillé, comme on l'a dit, au Figaro Magazine, tu écris, on en parle, des livres sur l'éducation. Ça te fait deux points communs avec une de tes confrères qui s'appelle Natacha Polony. Est-ce que tu te sens proche d'elle un petit peu idéologiquement?
Eh bien, disons que j'ai un petit peu côtoyé Natacha à l'époque où elle avait sorti un bouquin sur l'homme. Ça date, c'est il y a très très longtemps, donc à un petit moment, on nous avait un peu mises dans le même panier, ou voilà, disons qu'on avait un petit peu le même la même voix aussi, ou le même on était un petit peu sur le même âge, sur le même sujet, au même moment. Bon, après moi j'ai fait des choix tout à fait différents, puisque en particulier j'ai quitté la France. Pour le reste, concernant ces références, oui, parfois, mais enfin elle est beaucoup plus politique et moi je suis quand même beaucoup plus psy.
Ça se ressent dans tes livres, le côté un petit peu psy. On change de sujet complètement, on va parler un petit peu de l'indépendance de la Catalogne, puisque tu as assisté à la présentation du livre d'Henri de Laguérie, hein, La généralité des Catalonia. Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne, qui a sorti un livre qui s'appelle Les Catalans. Alors toi, tu l'as dit, tu n'es pas journaliste politique, mais tu as quand même eu l'occasion de côtoyer pas mal le milieu politique, Valéry Giscard d'Estaing, etc. T'en penses quoi de ce phénomène indépendantiste ici, avec ton point de vue français?
Bah écoutez, chaque fois que je vais voir VGE, il me dit « Agathe, l'indépendance de la Catalogne, vous en pensez quoi ?» Chaque fois, je lui dis « Écoutez, président, moi, j'ai rien à dire. » C'est tellement compliqué. Ce que je vois, c'est que ça fait 3 ans et demi que j'habite Barcelone, que tous les matins, quand j'allume la radio, on parle de quoi? On parle de l'indépendance de la Catalogne. Donc, quelquefois, c'est vraiment lassant. Et puis, par d'autres, si on prend le temps de s'arrêter, d'y réfléchir, on se dit que, d'un certain côté, ça tombe sous le coup du bon sens. Et par d'autres, c'est une hérésie. Alors, c'est vrai que le côté « c'est une hérésie », c'est peut-être davantage cette façon d'être française, jacobine. Bon, après, pour le coup, est-ce qu'il faut pour autant être totalement indépendant? Est-ce que une Espagne sur le modèle allemand ne serait pas plus facile? Est-ce que, bon, ça, je crois que c'est aux Catalans de répondre. Moi, je veux bien aller voter, hein, Après, avec quoi on doit voter? On doit voter avec ses connaissances, avec ses compétences, ou est-ce qu'on doit juste voter avec son cœur? Qu'est-ce que peut représenter? Ça dépend de... Je crois que la place de la Catalogne peut exister si une véritable Europe existe. Mais s'il n'y a pas d'Europe, pour le coup, la Catalogne risque de se retrouver un peu isolée, un peu perdue et un peu écrasée.
Alors justement, ce qui est intéressant avec toi, c'est quand on avait interviewé avec Leslie et Cham, la journaliste d'Equinox Radio, l'ancien président Jordi Pujol, justement, il disait qu'il se plaçait dans cette ligne des Lumières centristes européennes, qu'il était très proche de Valéry Giscard d'Estaing, justement, de Raffarin. Toi qui connais bien VGE, est-ce que tu trouves justement qu'on est un petit peu dans cet esprit des Lumières de construction européenne avec l'indépendance de la Catalogne, ou pas du tout? Qu'on est plus dans un mouvement, comme certains diraient, populiste et démagogique, qui serait quand même à l'opposé, les deux visions.
Non, je crois que les deux peuvent se trouver. Les Catalans sont naturellement français, de mon point de vue, plus qu'espagnols, dans leur façon d'être au monde, dans leur culture, dans leurs goûts musicaux, dans leurs références philosophiques, sociologiques, musicales. Donc c'est un vrai sujet. Pour autant, c'est un sujet, oui, très compliqué, sur lequel je n'ai pas fini, je n'ai pas choisi. J'entends parfaitement les revendications catalanes. Catalanistes, je préfère. Mais le mot « en ce moment est un peu limite. Mais bon, je l'ai su en tout cas avec bienveillance et avec intérêt.
Qu'est-ce que tu en penses du livre d'Henri de Laguérie, toi qui es journaliste et qui l'a lu?
Je trouve qu'on aura envie qu'il aille un petit peu plus loin, qu'il prenne la plume à nouveau pour se mouiller un petit peu. Et voilà, en tous les cas, c'est une belle démarche. Et
tu trouves comme certains qu'il y a une vision un peu trop donnée aux pro-indépendants et que c'est un petit peu monomaniaque là?
Non, c'est un parti pris éditorial. Donc en effet, si on est là pour parler des Catalans, on fait des portraits de Catalans et ça me gêne absolument pas. Et puis c'est quand même un petit livre, donc il peut pas non plus, ou alors il faut qu'il reprenne en effet sa plume et puis qu'il parte dans ce cas-là faire un tour, une enquête sociologique sur la Catalogne, les Catalans de Barcelone, les Catalans de l'intérieur, les Catalans de... Enfin bon.
Donc toi, t'attends les Catalans volume 2 d'Henri de Laguérie.
Oui, je trouve que ce serait une bonne idée, oui. Il y aurait de quoi le nourrir.
Faudra lui proposer. Tes biographes, on l'a dit tout à l'heure avec Leslie de Valéry Giscard d'Estaing, quand t'es venu à Barcelone avec lui, t'allais manger des tapas et tout. Il fait toujours la fête, VGE, à son âge.
C'est surprenant. Quelquefois, je me dis, il va tous nous enterrer. C'est quand même quelqu'un qui continue d'aller chasser en Afrique. C'est quelqu'un qui a une hygiène sportive, une hygiène de vie absolument remarquable, qui voyage, qui donne beaucoup de conférences, qui intervient énormément auprès des jeunes. Ça peut être à Sciences Po régulièrement, mais de la même manière en Chine ou aux quatre coins du monde. Partout où on l'appelle, il est là. Alors bon... C'est vrai qu'il n'est pas aussi réactif 24 heures sur 24, qu'il n'est pas que quand on le voit, on sent quand même, c'est rassurant, hein, parce que qu'il commence à vieillir et qu'il y a des moments où ça pédale un tout petit peu, mais à peine. C'est impressionnant, c'est véritablement une machine impressionnante.
Quand on dit que les présidents de la République aujourd'hui sont ils ont perdu la prestance présidentielle, toi qui as connu Valéry Giscard d'Estaing, est-ce que... Tu abondes dans cette thèse, tu penses vraiment qu'aujourd'hui un président de la République n'est pas à la hauteur de Mitterrand, n'est pas à la hauteur de Giscard ou n'est pas à la hauteur de De Gaulle?
Oui, mais de la même façon, je pense que nous-mêmes, nous ne sommes plus à la hauteur de nous-mêmes.
Tu penses qu'ils suivent simplement
on a des présidents qui nous ressemblent.
Ouais. Donc Giscard ressemblait au peuple de
France. Était un peu entre les deux. Il voulait moderne avec son chandail. Bon, c'est vrai qu'il avait fait beaucoup d'emprunts au système américain. Ce qui était très 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 amusant, c'est qu'on a beaucoup contesté son septennat et que l'année dernière on l'a immensément célébré. Donc, c'est toujours très très drôle de voir que ce qu'on a jeté hier, aujourd'hui on l'adule. Moyennant quoi, on s'aperçoit que ça a été un septennat qui a compté et peut-être celui qui a ouvert le plus de portes sur le monde d'aujourd'hui, dans le meilleur comme pour le pire.
Qu'est-ce qu'il regrette, Valéry Giscard d'Estaing, de ne pas avoir fait, politiquement?
Il regrette de ne pas avoir été compris. Il regrette de ne pas avoir réussi à se faire comprendre. Donc mal compris. Il a été le premier à vouloir véritablement utiliser la communication. Et je dirais qu'il s'est un peu pincé les doigts dans le système. Il regrette pas grand chose parce que c'est quelqu'un qui a la chance d'avoir un ego qui le place au-delà de toute remise en question. Donc quelque part il regrette que les gens n'aient pas pris le temps ou qu'ils n'aient pas davantage réfléchi au fait qu'il était plus aimable et qu'il aurait mérité de faire un deuxième mandat. On peut dire ça comme ça.
Alors justement, en parlant de deuxième mandat, on dit il est impossible de revenir une fois qu'on a perdu la présidentielle. Nicolas Sarkozy essaye de revenir. On prend toujours le contre-exemple de VGE, en disant regardez VGE, il a essayé de revenir, il a raté son coup. Est-ce que tu penses, toi, que ça va être le même destin pour Sarkozy, qu'on ne peut pas redevenir président de la République en France? Si tu devais faire de la voyance là sur Equinox ce soir.
Oui, là c'est vraiment de la voyance en direct. Non, ce que je vois, c'est que chez VGE, il y a beaucoup de gens qui défilent, et en particulier Sarkozy, où toute la classe politique continue de défiler pour aller prendre ses leçons du... Comment revenir? Est-ce que c'est une bonne idée de revenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit construire l'Europe? Donc lui, ce qu'il désespère, ce qu'il flatte évidemment, c'est que toute la classe politique continue de défiler chez lui. Et puis, ça lui permet quand même de refuser l'un, refuser l'autre quand ça l'amuse. Mais voilà quoi, ce qui le frappe lui, ce qui l'embête, c'est que personne ne suit ses conseils. Mmh. Donc si personne ne suit les conseils de VGE, je ne vais pas me risquer à jouer
les voyants,
les Madame Soleil à la radio ce soir.
Bon, alors on va parler de toi pour finir cette émission, pour finir cette interview. On l'a dit, hein, tu as écrit plein de livres entre 2000 et 2009. Tu continues à travailler. T'en es où là, les prochains ouvrages qui vont sortir des gars de Fourneau, c'est quoi?
Eh bien, en ce moment, je travaille un roman que j'espère terminer d'ici 4 mois. 4 mois, voilà, c'est l'échéance que je me suis fixée. Ces derniers temps, depuis 2010, c'est vrai que compte tenu de mes changements de vie, puisque j'ai quitté le point, j'ai quitté également mon mari, et je suis venue ici avec mes enfants, donc l'époque a été un peu à la réorientation, et compte tenu de ma formation psy, j'ai entrepris de travailler aux éditions Albin Michel pour le département psy. Et donc souvent j'aide des psychiatres, en particulier pédopsychiatres, à rédiger leurs livres. Voilà, je me place à la fois comme journaliste ou comme éditorialiste, ça peut aussi, mais pas là en l'occurrence. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur les livres des autres, ce qui m'a beaucoup apporté. Mais pour le coup, là, je reprends la plume pour faire du Agathe Fourniau, mais dans un genre un peu différent, avec un roman très psy.
Ouais. Oui. Alors justement, en parlant de psy, c'est une question qu'on se posait avec Leslie quand on a préparé cette interview. C'est même Leslie qui a eu l'idée de la question. Est-ce que tu te sers de ton expérience personnelle pour écrire tes livres, d'une manière générale?
Je pense que comme toute personne qui écrit des livres, on ne peut pas écrire sans mettre ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on observe, à des degrés variés.
Donc un roman a toujours une part d'autobiographie, selon toi?
C'est pas forcément de l'autobiographie, c'est de l'éprouver. C'est-à-dire c'est quelque chose par lequel on est passé et qu'on est capable de transformer plus ou moins. Mais on ne peut pas prétendre être une machine à écrire des bouquins sans rien mettre de ce que l'on est.
Et dans le cercle, on parle beaucoup de littérature. Pour finir, ce sera la dernière question. Qu'est-ce que t'en penses là de l'actualité littéraire en ce moment? Le livre de Zemmour, Suicide français, le livre d'Houellebecq, Soumission.
Bah, moi, je veux dire que Zemmour, ça me fait bien rigoler parce que d'une part, c'est un pote. et que voilà. Enfin, en tout cas, ça l'a été. Maintenant, c'est devenu quelqu'un qui
On dit qu'il est plus sympa dans la vie qu'à la télé, c'est vrai?
Dans la vie, il est très sympa. Il est franchement déconnant. Moi, j'ai passé des salons du livre à côté de lui, à rire énormément. Puis c'est quelqu'un que je trouve gentil et voilà. Donc après, c'est quelqu'un qui devient un petit peu fou, comme cette espèce de machine à télé qui broie les individus, qui les transforme, qui en fait des vignettes, des caricatures d'eux-mêmes. Donc c'est un peu. C'est quelque part, c'est pas de chance. Hein. Pour autant, chez Albin Michel, pour vous dire, c'est quand même un des plus bankable derniers temps. Moyennant quoi, il y a quand même une pétition qui a circulé pour dire, nous, écoutez, les idées de Zemmour choquent beaucoup d'autres éditeurs. Donc vous voyez, c'est quand même un peu conflictuel.
C'est-à-dire des auteurs d'Albin Michel qui ont fait une pétition pour se plaindre auprès de...
Des éditeurs, oui.
D'accord, des éditeurs concurrents d'Albin Michel.
Non,
ou des gens qui écrivent pour Albin Michel.
Non, au sein de la maison Albin Michel.
Est-ce qu'à ton avis, c'est le rôle d'un éditeur de se plaindre qu'une maison d'édition publie le livre d'un collègue? C'est pas un peu de la censure sur les bords?
Bah écoutez, en tous les cas, avoir un best-seller comme ça, parce qu'on en a quelques 400 000 exemplaires, ça permet de publier, bah, par exemple, des livres de psy qui marchent moins, mais qui méritent quand même d'être publiés. Pour ce qui concerne Houellebecq, j'adore.
C'est ton pote aussi.
C'est mon pote. Non, je trouve que voilà, c'est sociologiquement, c'est très bien vu. Alors c'est ok, c'est pas forcément super joyeux tous les jours, mais je crois que ça donne une bonne idée de ce qu'est l'époque actuelle. Et par conséquent, je ne l'ai pas lu encore parce que j'ai très très envie de le lire, et je sais que si je le commence, et ben je vais laisser tout ça pour le lire.
Le problème de Houellebecq, voilà, c'est que après, tout a été raconté dans les médias, et il n'y a plus du tout, tu connais la fin et tout. Oui. C'est un peu ce qui m'a dérangé quand j'ai lu le livre. C'est que, voilà.
Je suis d'accord. Après, on peut attendre un petit peu, justement. En plus, c'est dit, et puis bon, oui. Et puis en plus, compte tenu de l'actualité, ça a été... Mais bon, attendons quelques semaines et puis on pourra le lire tranquillement. On verra si en effet, il est pas bon, il est moyen bon, ou si au contraire, il est quand même chouette.
Moi, je dis moyen bon.
Ouais, c'est vrai.
Moyen bon, parce que je te dis, comme tu connaissais tout le storytelling déjà et que les meilleures pages sont vraiment sorties, là, c'est vraiment tous les meilleurs feuillets qui sont sortis. J'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de petits.
Ah, mais tu l'as lu donc ?
Oui, je l'ai lu, ouais, je l'ai lu dès qu'il est sorti. Et comme toute l'histoire a vraiment été racontée, je trouve qu'on a peut-être raconté un peu trop la fin et tout sur la conversion, etc., etc. Donc ça a perdu peut-être un peu de son charme.
Ouais, c'est possible, c'est possible.
Bon, Agathe, on te retrouve dans tous les lieux branchés de Barcelone.
Oui, mais bien sûr.
Dans toutes les sorties de livres, dans toutes les inaugurations, partout.
Oh, très bien, ok, j'y serai.
Bon, merci d'avoir été sur Equinox Radio ce soir, d'avoir répondu à nos questions en tout cas.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, Agathe.
Bonne chance pour la sortie du livre.
Merci, je vous tiendrai au courant.
Ciao.
Au revoir.